Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondé. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Plusieurs coins du pays connaissent un problème sérieux de pollution. À la base, des immondices jonchent les rues. Les véhicules qui dégagent de la fumée, certaines usines également, ce qui rend l'air irrespirable et expose les personnes à plusieurs maladies. Quels conseils pour améliorer la qualité de l'environnement? Ce sera M. Konde Kiama Nungi, qui est expert en santé, qui essaiera de nous donner quelques précisions là-dessus. Et il est en ligne. Bonjour.
Bonjour, madame.
Alors pour commencer par, on va d'abord commencer par expliquer pour les gens qui ne comprennent pas très bien de quoi est-ce qu'il s'agit. Qu'est-ce que la pollution?
La pollution, c'est une altération de la qualité du milieu. Ça peut être l'air, ça peut être le milieu aquatique ou le milieu marin, donc c'est une altération de la qualité, donc de la composition et de la structure du milieu qui est altérée suite aux activités humaines, ce que l'homme déverse dans le milieu ou ce que l'homme rejette comme déchets générés par ses activités.
Mm-hmm. Alors, de façon simple, pouvez-vous expliquer comment est-ce qu'on pollue notre terre, notre environnement?
Bon, l'environnement, si on considère, comme vous avez parlé au départ, des déchets, mm-hmm. on peut considérer que quand nous commençons par le plus simple au niveau des ménages, quand une ménagère s'occupe de son ménage pour la cuisson, pour la préparation des aliments, pour nourrir sa famille, elle achète des aliments au marché et puis après, donc, elle achète des produits alimentaires au marché qu'elle va préparer à la maison. Si elle achète des légumes éventuellement, elle ne va utiliser que les feuilles qu'elle va cuire et il y a une partie qui est jetée, donc la tige sur laquelle sont accrochées les feuilles, elle va rejeter cette tige-là et mm-hmm. quand elle prépare aussi, elle peut utiliser une boîte de tomates, la boîte qui contenait la tomate qu'elle va mettre pour préparer sa sauce, elle va rejeter cette boîte mm-hmm. et elle peut avoir été servie dans des sachets d'emballage, tous ces sachets, elle va aussi les jeter et donc finalement, si on ne prend pas bien soin de tous ces déchets, donc, ceux qu'on ne va plus utiliser dans leur intention première, si on ne prend pas bien soin de ces déchets pour bien les gérer, on va les rejeter dans l'environnement et ces déchets vont constituer une nuisance, un gêne, un inconfort pour les passants ou pour les habitants de la parcelle aussi.
Vous avez parlé tout à l'heure des tiges de légumes que nous
oui.
jetons. Est-ce que les éléments naturels aussi peuvent constituer un élément polluant?
Oui, mais si on ne prend pas bien soin de des restes des légumes qui avaient été achetés, ça veut dire qu'on va les déposer au coin de la parcelle éventuellement. C'est feuilles ou ces tiges vont commencer à se dégrader et c'est tout à fait normal que dans la dégradation qui va survenir, si on ne gère pas bien, si on ne prend pas bien soin de ces légumes pour éventuellement, comme ce sont des matières organiques biodégradables, qu'on puisse éventuellement les placer dans une compostière où il n'y aura pas que des légumes bien sûr, mais des feuilles de légumes, mais il faudra aussi qu'on associe des éléments riches en des matériaux riches en azote, puisque dans une compostière, ça c'est une dégradation biologique contrôlée des matières organiques, mais on n'y aura pas que des matières riches en carbone, il faut qu'on les associe avec des matières riches en azote mm-hmm. pour qu'on ait un compost de bonne qualité qui peut servir comme engrais naturel. Mais si ces conditions-là ne sont pas remplies et qu'on rejette seulement ces légumes à un coin de la parcelle, ces feuilles vont commencer à se décomposer et c'est sûr qu'il y aura finalement des nuisances aux habitants de la parcelle. Il y aura des odeurs qui vont commencer à se dégager de la décomposition de ces matières organiques et ça va créer donc une pollution de l'environnement.
Alors qu'est-ce que vous conseillez à ces mamans qui, pour la plupart d'entre elles, beaucoup d'entre elles en tout cas, sont en train de faire à manger à cette heure-ci? Elles sont soit avec en train de faire du pondou ou bien les amarantes, les ngaï-ngaï. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Comment est-ce qu'elles doivent jeter les tiges?
Ce qu'on peut conseiller, c'est qu'elles disposent d'abord d'une poubelle dans la parcelle ou à côté de la cuisine. Ça devrait être une poubelle. Le rôle de la poubelle dans la gestion des déchets solides, c'est pour assurer un isolement des déchets pour qu'on puisse éviter le contact des vecteurs ou des arthropodes comme les rongeurs, comme les rats, les souris que l'on peut trouver dans des parcelles ou dans les quartiers pour qu'ils n'accèdent pas à ces déchets en décomposition. Et que finalement, ces vecteurs ou ces arthropodes ne puissent pas aussi aller se poser sur de la nourriture. Et là, vous comprenez, donc, il y aura une transmission des maladies, une transmission mécanique éventuellement, puisque leurs pattes vont être en contact avec ces déchets en décomposition. Et les agents infectieux qui peuvent être en développement, en multiplication dans ces déchets en décomposition vont être apportés par ces vecteurs, les mouches par exemple, ou les autres, les rongeurs, ils vont les emmener vers la nourriture qui serait dans la maison. Mm-hmm. Ce qu'on conseille donc, c'est que les mamans doivent avoir au niveau de leur parcelle, à côté de la cuisine, une poubelle, pas seulement un vieux carton ou un vieux seau troué, mais ça devrait être une poubelle au vrai sens du mot. Ça veut dire un récipient qui peut être métallique ou en plastique, étanche et muni d'un couvercle où elles vont déposer ces déchets. Et après, quand la poubelle est remplie, ou même pas qu'on attende que la poubelle est remplie, puisque si elle se remplit après 3-4 jours, nous sommes en milieu tropical, avec la température ambiante qui est au-delà de 25 degrés, ces déchets vont commencer à se décomposer. Et il faudrait donc que ces poubelles soient vidées régulièrement, ça veut dire qu'avec une fréquence bi ou tri hebdomadaire, en principe, on devrait vider sa poubelle deux ou trois fois par semaine pour que les déchets ne restent pas dans la poubelle et qu'elle ne se décompose et qu'ils ne se décomposent pas au sein de la parcelle. C'est vrai que c'est un autre problème après où ces mamans vont-elles jeter le contenu de leur poubelle. Mm-hmm. Ça, c'est un autre problème puisqu'il faudrait que ça, c'est au niveau des municipalités qu'on doit organiser la collecte des déchets solides qui sont générés par les ménages pour les emmener vers un site, un dépôt intermédiaire. Il faut aussi qu'on ait des équipements appropriés pour la collecte de ces poubelles et pour leur transport vers le dépôt intermédiaire où le tri peut se faire avant de procéder au traitement final. Et pendant le tri, on peut déjà récupérer une bonne partie de ce qui était considéré comme déchets pour le recyclage ou pour la réutilisation ou pour la production de compost.
À vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Quels sont les dangers que nous courons si nous polluons notre environnement? Et nous en parlons avec M. Kondenkia Manungi, l'expert en santé. Vous avez des questions, n'hésitez pas, faites le 081-890-6394 si vous voulez participer en direct ou vous nous envoyez un SMS au 081-070-2050. Monsieur Kondé, vous venez de nous parler de la décomposition de ces déchets naturels, même naturels que nous jetons par exemple dans les coins de parcelles. Vous avez également parlé des rats qui peuvent être porteurs de certains microbes. Alors moi, je voudrais savoir quels sont les dangers de la pollution sur notre santé.
La pollution amène plusieurs risques pour la santé de la population. C'est vrai que, hormis les nuisances esthétiques, la beauté de l'environnement qui est altérée par la pollution, il y a des risques, bien sûr, pour la santé de la population. Ça peut être donc des risques de transmission des maladies infectieuses et parasitaires. Par là, ça se ferait par un contact direct, soit des mains avec un milieu qui est pollué, avec des déchets en décomposition. Mm-hmm. Ça peut aussi être par l'intermédiaire de l'eau, de ruissellement qui passe à travers la pile de déchets en décomposition, et cette eau de ruissellement va finalement atteindre les points d'eau où les gens s'approvisionnent en eau de boisson, et l'eau de boisson peut aussi être contaminée.
Mmh. Alors pour les gens qui se trouvent par exemple dans des milieux où l'environnement est déjà pollué, quand est-ce qu'ils peuvent commencer à s'inquiéter? Quels signes est-ce qu'on présente quand on est face à vraiment à une maladie due à une pollution?
Oui, mais ça peut être le plus simple. Et vous savez, les enfants, les tout jeunes enfants, les enfants de moins de 5 ans, mm-hmm. eux sont très sensibles à toutes ces formes de pollution de l'environnement qui peuvent entraîner des maladies. Puisque les enfants sont en train de constituer leur système immunitaire, et s'ils sont en contact avec des parasites ou des germes qui peuvent être véhiculés par le milieu pollué, et ces germes peuvent finalement atteindre soit l'eau de boisson ou les aliments ou les mains de ces enfants ou même le sol que ces enfants peuvent éventuellement emmenés à la bouche, et chez ces enfants, généralement, les maladies qui sont véhiculées par le milieu pollué vont se manifester très rapidement. Le plus simple, c'est la diarrhée qui peut survenir chez ces enfants de moins de 5 ans. Mmh. Et donc, il y a la diarrhée, il y a non seulement la diarrhée, mais s'ils sont aussi dans un milieu qui est pollué avec la pollution de l'air, on peut aussi avoir des nuisances qui surviennent chez ces enfants, et on peut avoir donc il y a des infections respiratoires qui peuvent aussi apparaître.
Mais on va prendre...
chez les enfants, chez les personnes dont l'immunité est déprimée, et chez les personnes âgées, ces nuisances peuvent apparaître plus facilement ou plus rapidement que chez les personnes adultes en bonne santé.
Monsieur Kondenkiama, nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes expert en santé, et cette émission permet également à nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent, de poser leurs questions. Nous allons prendre Thierry de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, madame.
Oui, vous avez la parole.
En fait, c'est par rapport aux déchets. Ici à Lubumbashi, il y a un problème, il y a des déchets un peu partout. Les gens ne savent même pas où les jeter, hein. D'autant plus qu'il y a une rivière, on appelle rivière Lubumbashi, et chaque fois c'est une rivière qui fait la liaison des deux communes, hein, Kenya et Katuba. Et à chaque instant, et quand il pleut, bon, on ne sait plus passer là-bas. Tout ça parce que les gens jettent les déchets. Et évidemment, les gens, même dans leur parcelle, ne savent même pas où jeter les déchets. Bon, on se demande est-ce qu'il n'y a pas un moyen, peut-être au niveau du gouvernement ou de l'État, s'il peut, même les gens, les entrepreneurs, s'ils peuvent avoir l'initiative d'avoir des camions, je ne sais pas comment, et les gens vont payer même un peu d'argent, et comme ça, on jette les déchets même un peu loin de la société.
Monsieur Nkiama?
Oui, pour ce qui est de la pollution d'un cours d'eau, comme on en parle là à Lubumbashi, je pense que c'est un problème de gestion aussi, de la qualité de l'eau de ce cours d'eau. C'est vrai que la responsabilité revient donc à la municipalité pour veiller à la qualité de l'eau de ce cours d'eau, mais les riverains ont leur responsabilité aussi. C'est vrai que la pollution peut provenir de l'amont de ces riverains, mais quelque part, il s'agit du rejet dans ce cours d'eau des déchets qui sont générés soit par les ménages ou par des miniers artisanaux, mais il y a une responsabilité de l'homme qui rejette ces, ces déchets dans ce cours d'eau-là qui n'est pas destiné à recevoir ces déchets-là,
mm-hmm.
puisque le cours d'eau a une capacité auto-épuratrice, donc de façon naturelle, le cours d'eau arrive à traiter les déchets qu'on y rejette, mais cette capacité auto-épuratrice naturelle du cours d'eau est limitée. Quand on excède sa capacité, tout ce qu'on rejette là-dedans, finalement, va aussi nuire à la vie aquatique qu'il y a dans ce cours d'eau. Donc c'est de la responsabilité d'abord des individus qui rejettent les déchets dans ce cours d'eau d'arrêter de faire cela,
mm-hmm.
et aussi de la municipalité pour veiller à ce que la qualité de l'eau de ce cours d'eau soit garantie.
Monsieur Kondé Nkiama, quels sont les dangers que l'on court si justement nous déversons des déchets dans la rivière, non seulement sur l'environnement mais également sur la santé?
Bon, ça dépend aussi de quel type de déchets on y rejette. Si ce sont des déchets ménagers qui sont à plus de 60% constitués de matières organiques biodégradables, ces matières organiques, quand on les rejette dans le cours d'eau, ces matières organiques vont subir une biodégradation. Ça veut dire qu'il y aura oxydation de ces matières organiques et donc il y aura utilisation de l'oxygène dissous dans le cours d'eau et ça va entraîner un appauvrissement du cours d'eau en oxygène dissous.
Mmh.
Et comme conséquence, bien sûr, pour la vie aquatique, il y aura, s'il y avait des poissons, les poissons auront de la peine à survivre dans un milieu où l'eau devient très pauvre en oxygène dissous,
mmh.
mais non seulement cela, cette décomposition de ces matières organiques va aussi entraîner, il y aura multiplication des micro-organismes, et si ces déchets qu'on y a rejetés au départ avaient une certaine charge bactérienne, c'est l'eau qui est dans la rivière va aussi être contaminé, et si ces déchets dans un certain sens avaient une certaine charge de pathogènes, ces pathogènes vont être véhiculés par l'eau. Et si l'eau sert de milieu de baignade pour l'hygiène corporelle des habitants, les gens qui s'y baignent, comme l'eau va aussi arriver éventuellement en contact avec leur bouche, il y a risque que ces gens soient contaminés. Et même sur la peau aussi, on peut avoir des nuisances, des maladies de la peau qui peuvent apparaître chez ceux qui utilisent cette eau-là. Et ceux qui l'utilisent aussi pour la boisson éventuellement vont aussi être contaminés.
Voilà, vous nous suivez ici, Ro, sur la 90.1 FM. En tout cas, merci de nous avoir choisis. Nous avons deux auditeurs qui nous ont appelés de la province orientale. Il s'agit de Gabriel et de John Peter qui sont tous à ici, Ro. On va commencer par Gabriel qui a une préoccupation. Bonjour, Gabriel.
Bonjour, Radio Okapi. Bonjour, l'invité. Bonjour, tous les auditeurs de Radio Okapi. J'ai deux petites considérations. Bon, d'abord, un petit constat. C'est que en parlant des effets dans la santé publique, ce n'est pas seulement notre expert. Si nous nous retournons d'abord à la LICOSA à l'époque, Ligue des consommateurs zaïrois, on a tendance à se fixer sur une pollution matérielle visible, hein, qu'on peut palper, qu'on peut décrire. Mais je voudrais demander auprès de notre expert en santé si on peut parler d'une pollution sonore. Ou bien si on peut parler encore d'une pollution gazeuse. Je m'explique. Des gens, par exemple, là où il y a 4, 5 églises en train d'ingurgiter des décibels, tous ces bruits-là. Et au niveau, par exemple, des radiations, de fumée et tout ça, les gens qui sont en train d'ingurgiter des quantités énormes de gaz polluantes. Le premier aspect, d'abord, c'est la visibilité ou bien le fait de cerner d'abord ce genre de pollution.
Mmh.
Est-ce que quelqu'un, un consommateur, pourrait porter plainte des suites des maladies qu'il aurait contractées après des décibels? Par exemple, parlons d'une usine où quelqu'un, du matin au soir, il est en train de recevoir dans l'oreille des vibrations de machines mécaniques ou de quelqu'un qui peut à proximité des bars, qui ingurgiterait des décibels énormes et que la maladie serait provenue des faits de ce genre de pollution, soit en décibels, soit en forme gazeuse. Est-ce que un consommateur peut porter plainte pour une maladie prouvée par le médecin qui émanerait de ce genre de pollution?
Monsieur Condé, avant de vous repasser la parole, parce que c'est à vous qu'on pose la question, on voudrait juste signaler à nos auditeurs que nous nous sommes focalisés essentiellement sur la pollution de l'environnement. Donc bien sûr il y a plusieurs types de pollution, mais nous ne pouvons pas en 30 minutes parler de tout ça. Donc aujourd'hui c'est essentiellement sur l'environnement. Donc je pense que M. Condé peut répondre par rapport à l'ingurgitation de fumée par exemple, parce que là c'est dans l'air les gens qui dégagent du gaz. Donc voilà.
Oui, pour ce qui est de la pollution de l'environnement lié à des gaz qui sont qui émanent de la combustion, là nous pouvons dire que en fait c'est devenu de plus en plus un problème. La pollution de l'air est devenue un problème majeur de salubrité de l'environnement, et ce problème touche aussi bien les pays développés que les pays en développement, et c'est un problème vraiment mondial qui concerne aussi bien la qualité de l'air ambiant dans les villes que la qualité de l'air à l'intérieur des habitations et dans les lieux de travail, et ce en milieu rural aussi bien qu'en milieu urbain. Et les niveaux de pollution les plus élevés de pollution de l'air sont enregistrés à l'intérieur même des habitations, surtout dans nos pays en développement. C'est vrai que la fumée, la pollution intra-domiciliaire entraîne des conséquences néfastes sur la santé des enfants, qui sont les enfants de moins de 5 ans en particulier, qui ne vont pas encore à l'école et qui peuvent être en permanence à la maison, à l'intérieur des maisons, et des femmes ménagères qui sont aussi à l'intérieur de ces maisons. Et donc là, c'est un problème réel et il y a des efforts au niveau mondial pour qu'on puisse réduire cette pollution intradomiciliaire. Mais le problème qui est lié à cela, à la réduction de cette pollution intra-domiciliaire, c'est que dans nos pays en développement, on recourt plus pour la cuisson des aliments et pour le chauffage, on recourt plus à des combustibles solides. Et ces combustibles solides, quand on les utilise, quand on les brûle, il y a la fumée qui est générée. Et comme la combustion se fait à des températures qui ne sont pas très élevées, ça veut dire que, hormis la chaleur qui sert à la cuisson des aliments ou bien au chauffage, il y a des gaz qui sont aussi produits. Et ces gaz restent dans l'air ambiant à l'intérieur des domiciles. Et ces personnes qui sont en permanence en train de respirer cet air pollué, il y a des conséquences pour leur santé.
Monsieur Condé, vous avez parlé de combustibles solides. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement?
Oui, pour ce qui est des combustibles solides dans nos milieux, le plus simple, c'est le bois de chauffe. Quand on prépare de la nourriture avec du bois, et donc là, on recourt à du bois de chauffe qu'on a séché, et puis on va mettre le bois en dessous du foyer où on va préparer la nourriture ou pour se chauffer quand on est en saison sèche éventuellement. Mais il n'y a pas que le bois de chauffe, on peut aussi utiliser ce qu'on utilise aussi des fois dans certains milieux, on recourt aussi à la bouse séchée, la bouse de vache éventuellement, qu'on a séché, ou bien à du fumier de porc qu'on a séché et puis on le brûle, puisque ça a aussi un certain pouvoir calorifique. Et donc quand on recourt à ces combustibles solides et qu'on les brûle pour avoir de la chaleur pour la cuisson des aliments ou bien pour se chauffer, cette combustion produit bien sûr la chaleur, mais il y a cette fumée qui émane de ces combustibles solides qui peut aussi être chargé en gaz qui vont nuire à la santé de ceux qui respirent cet air pollué.
Et pour répondre à la question de Gabriel qui voudrait savoir si on peut porter plainte, par exemple, face à une usine qui dégage des gaz nocifs à la santé.
Oui, et donc il y a aussi des usines qui dégagent des certains gaz dans les fumées qui émanent de leurs fourneaux, qui sont peu efficaces et qui ne sont pas munis au niveau de la cheminée, s'ils ne placent pas des filtres pour nettoyer la fumée afin que l'air ne soit pas pollué. Les gens qui habitent dans la direction du vent peuvent recevoir de l'air pollué. Bien sûr que c'est de leur droit de réclamer des réparations éventuellement, mais je pense que là, il faudrait qu'on établisse que le problème de santé dont ils souffrent est vraiment associé, que c'est cette fumée-là qui est la cause. Ça, c'est une autre expertise qui doit être sollicitée pour qu'on établisse le lien de causalité. Mais c'est vrai que quand on a des fumées qui émanent des fourneaux ou des cheminées des usines, si ces fumées ne sont pas filtrées avant leur échappement dans l'air, on peut avoir des particules ou des substances polluantes qui peuvent être apportées dans l'air et l'air va être pollué.
Voilà, et c'est par là que nous allons clore cette tranche. Merci à vous, Monsieur Konde Kiamanungu. Nous rappelons que vous êtes expert en santé. Merci d'avoir apporté l'éclairage sur ce problème de pollution de l'environnement.
Merci.
Oh,